transport qui n'était pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec un prophète qui ne vous facilitait pas non plus la vie par la tendresse de, de son accueil. Voilà. Et que vous êtes à nouveau là pour Isaïe. Alors, on n'entend pas. Bon, alors je vais le prendre le micro parce que sinon on n'y arrivera jamais. Là, vous entendez mieux ? Bon, et si vous n'entendez plus, vous intervenez. D'accord ? C'est mieux. J'y arrive pas à l'allonger, ce truc-là. Donc, deuxième prophète, c'est beaucoup pour l'année. En même temps, il y a une continuité. Et une continuité intéressante, je trouve, parce que, avec Ézéchiel, vous aviez le prophète qui, à un moment tragique de l'histoire d'Israël, après avoir dénoncé avec violence le péché du peuple, le refus de Dieu, etc., au moment le plus noir, ouvre des chemins étonnants d'espérance et voit finalement un avenir qui est une espèce de retour avec une création nouvelle. Et un peu plus tard, à peine quelques décennies plus tard, il est suivi par ce Deutéro, second Isaïe, en tout cas les chapitres 40, 55 d'Isaïe, on parlera du deuxième Isaïe ou de Deutéro Isaïe, ce prophète-là qui lui voit se réaliser cette espérance, puisqu'on va rentrer, en tout cas ceux qui veulent vont rentrer, donc il voit se réaliser cette espérance, et en même temps, il annonce malgré tout que cette espérance peut se faire, peut se vivre à prix douloureux, puisqu'il y a ce serviteur qui va finir par mourir alors même que Sion est restauré et que lui, Dieu, l'exalte. Entre-temps, il a souffert et il est mort. Voilà, donc il y a une espèce de contrepoint à l'espérance réalisée dans ce deuxième Isaïe qui en fait un prophète extrêmement riche, extrêmement fort, un prophète qui a été, avec l'ensemble du livre d'Isaïe, un des grands textes des Écritures qui ont accompagné le peuple juif, puisque vous savez qu'à Nazareth, c'est ce que nous raconte Luc, dans la synagogue de Nazareth, où il y avait certainement, comme dans toute synagogue, des rouleaux de la Torah, il y avait aussi un rouleau d'Isaïe. Voilà. On lisait la Torah, on lisait Isaïe, et on chantait quelques psaumes. Donc, importance de cet Isaïe, qui va imprégner, être la toile de fond d'un grand nombre de textes du Nouveau Testament, Paul et les Évangiles. Isaïe, l'ensemble du texte, du chapitre 1 au chapitre 66, est omniprésent derrière les Évangiles. Bien sûr, Isaïe 7, 14, la jeune reine ou la jeune femme ou la vierge qui va enfanter d'un enfant qui sera l'Emmanuel, Dieu avec nous, présent dans les Évangiles de l'enfance, exploité par les Évangiles de l'enfance de Matthieu et de Luc. Mais notre texte, qui commence au chapitre 40, « Consolez, consolez mon peuple, préparez les chemins du Seigneur », c'est le texte qui est cité par les trois évangiles synoptiques pour l'arrivée de Jean-Baptiste, qui prépare justement les chemins du Seigneur, un Seigneur qui va quelque part reprendre les éléments, la figure de l'accomplissement du prophète Isaïe. Et un Seigneur qui va mourir, et dans les récits de la Passion, à l'arrière-plan des récits de la Passion, vous aurez en permanence les chants qu'on appelle les chants du serviteur, notamment ce chapitre 53 du deuxième Isaïe, que nous allons lire aussi. Voilà. Donc, au fond, on travaille un texte qui est un des matériaux premiers sur lesquels, avec lesquels, les évangélistes ont essayé de comprendre la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Ça va ? Voilà. Alors, un petit panorama général de l'ensemble du livre, parce que nous en lisons 15 chapitres, mais Isaïe, c'est un des textes probablement le plus long de l'Ancien Testament, et il faut situer ces 15 chapitres dans l'ensemble du livre qui a une réelle unité. Alors, l'ensemble du livre, il couvre à peu près 3 siècles. De 735 à 450, on n'en sait rien, ou 470, ou 425, c'est pas fixé. En tout cas, il est clair que sur 3 siècles, c'est pas le même prophète qui a écrit. Effectivement, si vous interrogez des fondamentalistes américains, ils vous diront que, puisqu'il était prophète, l'Isaïe de 735 pouvait très bien prévoir ce qui se passerait en 450. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait crédible. Alors, trois siècles, et le monde juif le sait, et c'est écrit déjà depuis le XIe siècle, un prophète du 8e siècle qui a au fond une espèce d'école ou de descendance, en tout cas, des disciples qui vont réapparaître pour une seconde, puis une troisième partie à la fin de la période de l'exil à partir de 540. Et qui donc va écrire la suite. Alors, l'ensemble du texte d'Isaïe se découpe bien selon les différentes périodes. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais passer, comme toujours, un petit moment à faire de l'histoire. Mais d'abord, je vous dis comment l'ensemble est fait. Les chapitres 1 à 33 sont, en gros, surtout le début, l'œuvre du prophète du Nord, ce prophète Isaïe qui a travaillé, qui a parlé à la cour, prophète du royaume du Sud, du royaume de Juda, au moment où le royaume du Nord va disparaître. Isaïe, un grand de la cour d'Akaz et d'Ézéchias, qui va donc parler à ce moment-là, au moment où le royaume du Nord va disparaître, donc chute de Samarie en 721, disparition complète du royaume du Nord avec déportation de la population par les Assyriens, et puis qui va annoncer la montée sur le trône du jeune roi, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Ézéchias, et qui va accompagner le règne d'Ézéchias, un règne difficile parce que les Assyriens sont aux portes du pays et qu'à partir de 710, ils vont essayer d'assiéger Jérusalem. Et que le siège a lieu en 701. Et ce siège a une importance énorme. Il va être raconté après coup. Il est raconté une première fois au milieu des chapitres 1 à 33. Mais il est raconté après coup dans les chapitres 36 à 39 par des écrivains plus tardifs qui savent très bien que ce siège, où Jérusalem a été libérée, a ouvert une espérance énorme. Alors Jérusalem a été assiégée, puis libérée. Les versions diffèrent selon le point de vue. Dans la Bible, on raconte que le roi d'Assyrie, Sennachérib, qui était en train d'assiéger Jérusalem, a été frappé avec son armée par la peste au milieu de la nuit, et qu'au matin, ils étaient tous morts, sauf quelques-uns. Et donc que le siège a été levé. Les annales assyriennes racontent que le roi a laissé Jérusalem parce que à Ninive, il y avait une révolution de palais, que Jérusalem, c'est bien joli, mais Ninive, ça vaut mieux. Voilà. Donc, interprétation que vous voulez, Jérusalem a été sauvée. Et ça va être un phare, ce Jérusalem assiégé et délivré, ça va être un phare qui va éclairer la suite de l'histoire jusque et y compris au moment de la véritable chute de Jérusalem en 588 et au moment de l'exil entre 588 et 539. Voilà. Une fois dans l'histoire, Jérusalem assiégée a été libérée. Ça éclaire toute la suite de l'histoire. Isaïe n'en raconte rien. Je reviendrai tout à l'heure sur le petit trait en travers. Vous voyez bien que j'ai sauté volontairement, comme le texte d'Isaïe, parce que les chapitres, eux, se suivent. J'ai sauté plus d'un siècle et demi, 160 ans. Parce qu'Isaïe n'en raconte rien. Et nos chapitres, eux, sont un récit qui reprend à partir de la fin de l'exil et du retour, 540 ou 539, jusqu'à peu près 520. Une troisième partie du livre, les chapitres 56-66, raconteront la difficile réinstallation en Judée et à Jérusalem, avec, malgré tout, à la fin, une ouverture extraordinaire sur ce que nous allons déjà voir avec notre second Isaïe, l'universalisme du salut, hein, Dieu qui appelle tous les peuples à être sauvés et à monter vers Jérusalem, qui est toujours ce centre du salut. Ce qui m'intéresse ici, c'est de déjà vous montrer qu'il y a une unité théologique du livre. Une unité théologique du livre qu'il faut un peu interroger. Au fond, le livre est une vaste histoire des malheurs et des bonheurs, mais au fond, finalement, quand même une histoire de malheurs, puisqu'à la fin, Jérusalem est détruite. Donc, des malheurs et du salut de Sion Jérusalem. Ne cherchez pas trop de différence entre les deux noms. Les deux appellations sont à peu près identiques. Les deux sont à peu près identiques. Alors, une histoire, qui est vraiment une histoire concrète, une histoire de guerre, une histoire de peuple qui essaye de vivre, où, dont les protagonistes vont être d'un côté Dieu et son ou ses prophètes, et de l'autre les rois, leurs conseillers et le peuple. Et puis, il y aura à un moment donné un protagoniste, le serviteur, qui va être à la fois des deux côtés, qui va jouer le rôle un peu d'intermédiaire. Pour le moment, il y a d'un côté Dieu et les prophètes, de l'autre le roi, les conseillers et le peuple, et les prophètes vont dénoncer sans arrêt de la part de Dieu quoi ? Ils vont dénoncer, je vais partir de ce qui leur paraît le moins important, qui pour nous est très important, leurs erreurs politiques, des erreurs évidentes de stratégie et de, finalement, de mauvaise vue politique à long terme. Voilà, les rois se sont trompés, ils ont chaque fois joué le mauvais cheval. Et les prophètes, et le prophète Isaïe, et ça va être un de vos soucis sans arrêt, vont lier ça à l'abandon de la fidélité au Dieu unique. Les rois se commettent et cherchent à faire alliance avec la Syrie ou avec les Babyloniens ou avec l'Égypte, et donc avec leurs dieux, puisque ce sont des dieux vainqueurs, ou des dieux qui paraissent plus puissants, et donc ils abandonnent le Dieu d'Israël. Alors, c'est ambigu cette lecture de l'histoire, et vous le savez bien, et nous nageons toujours là-dedans. C'est ambigu parce que si le roi et son peuple étaient restés fidèles au Dieu d'Israël, il n'est pas certain que l'histoire aurait mieux tourné. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, rester fidèle au Dieu unique ? Si le monde entier et si tous les hommes vivaient de façon fidèle au Dieu dont le dessein est un dessein d'amour et de paix, évidemment, l'histoire changerait de sens. Donc voilà, on est dans ce questionnement-là. En fait, ce qui ressort, à mon avis, de cette affaire, c'est la foi d'un peuple, en tout cas la foi des prophètes de ce peuple, mais le peuple en fait partie, qui atteste, et qui atteste avec force, que la parole du Seigneur est une parole de salut, et qu'elle s'accomplit au travers, vous diriez malgré, en dépit d'eux, et parfois on n'y voit rien du tout, mais qu'elle s'accomplit quand même au travers des malheurs, des violences, de la folie humaine. Il y a une parole de salut qui s'accomplit, et ce que le texte d'Isaïe cherche à faire sans arrêt, c'est à inscrire l'espérance au cœur de l'histoire et à montrer que cette espérance, on peut la voir en voie de réalisation. Il faut bien regarder, c'est le problème. Voilà. Alors, je voudrais maintenant avancer un petit peu dans cette histoire du salut de Jérusalem et de l'articulation d'une Jérusalem sauvée avec une Jérusalem assiégée et détruite. Je vous l'ai dit, ce qui s'est passé en 701, va être un phare pour la suite. En même temps, les chapitres 36 à 39 qui racontent ce salut de Jérusalem mettent aussi une espèce d'ombre, laissent planer une espèce d'ombre sur cette lumière. Évidemment, ces chapitres ont été écrits un siècle ou un siècle et demi après. En effet, le dernier oracle, celui du chapitre 39, c'est pas 6, hein, pas c'est chapitre 39, c'est chapitre 39, verset 6. Il y a une erreur. Le dernier oracle annonce, le prophète annonce au roi Ézéchias la chose suivante : des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Voilà, on annonce ce qui va se passer 110 ans ou 115 ans après. Tout sera emporté et rien ne sera laissé. Donc une ombre, et cette ombre, elle va être portée par le livre d'Isaïe jusqu'en 540, c'est-à-dire que le prophète va oublier toute la période royale, tout ce qu'on appelle la période royale dans le royaume du Sud, depuis Ézéchias en 701 jusqu'au roi ou prince Sédécias en 587. Isaïe n'en dit pas un mot. Le prophète va oublier la prise de Jérusalem après 2 ou 3 ans de siège en 587. Le temple brûlé, la ville détruite et l'exil de l'élite de la population. Et il va aussi passer sous silence, alors le convoi des exilés, les souffrances, etc., mais il va aussi passer sous silence les 50 ou 70 ans d'exil à Babylone, suivant comment on compte, à quel moment on repart, etc. Tout cela, il le tait et il va, au fond, reprendre le fil du récit, un autre, ou lui-même, si ce sont ceux qui ont écrit les derniers oracles de 39, reprendre le fil du récit au moment où le retour devient possible. Alors, vous voyez bien qu'on a eu sans arrêt d'autres prophètes qui ont accompagné ce trou. Ce trou a été accompagné par d'autres prophètes. Jérémie est le prophète des années, on va dire 625 à 587, des années qui conduisent au désastre. Voilà, 30 ans qui conduisent au désastre. Si vous n'avez jamais travaillé le livre de Jérémie, vous le travaillerez un jour, mais enfin, il accompagne cette période-là. Vous avez travaillé Ézéchiel. Ézéchiel, il accompagne les 10 dernières années qui conduisent au désastre, et on dirait qu'il tape sur la tête du peuple qui s'enfonce, et puis, il relève l'espérance à partir du moment où le désastre est arrivé et où la population, ou en tout cas l'élite de la population, est en exil. Ézéchiel. Le Deutéro-Isaïe fait suite, au fond, à Ézéchiel. Lui, il voit s'approcher les Perses et leur politique qui va permettre un espèce de retour. Et il va chanter cette espérance inouïe. Voilà, Jérusalem détruite va être reconstruite, en tout cas lentement, mais à partir de 520, le temple va être construit. Et on peut considérer qu'en 450, les remparts de Jérusalem sont reconstruits aussi. Et ceci est dit en termes de nouveauté. Alors, c'est bien l'ancienne Jérusalem qui a été détruite et qui va être reconstruite. N'empêche que tout est nouveau. Tout est nouveau. Le Dieu qui sauve est un Dieu qui recrée et qui fait du nouveau et dont il faut avoir perçu l'action et le fait qu'il n'a jamais abandonné son peuple. Parce qu'il était resté caché et que, au fond, bien qu'il reste caché dans l'histoire, il manifeste son salut à ceux qui savent ouvrir leurs yeux et ouvrir leurs oreilles. Le texte d'Isaïe va nous le dire. Alors, comment se passe ce retour et cette réinstallation? Un tout petit peu d'histoire. Je vous ai mis la carte. Je ne sais pas si elle est assez visible. Vous reconnaissez en tout cas, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, et même beaucoup plus loin, puisqu'on va à travers l'actuel Irak, à travers la Perse actuelle, jusqu'à l'Afghanistan et jusqu'aux abords de l'Inde. Les Babyloniens n'avaient pas un empire aussi grand, ils étaient bordés à l'est par les Perses, et les Perses, après avoir pris la Médie, le texte d'Isaïe, qui est très poétique, dit que Cyrus a piétiné les satrapes mèdes au pied d'argile. Après avoir pris les Mèdes, les Perses vont s'avancer et sans trop combattre, ils vont s'avancer jusqu'à Babylone. Vous voyez où est Babylone ? Voilà. Et Babylone va se rendre, sans être détruite, au roi perse Cyrus, qui va permettre à ceux qui le veulent des exilés de rentrer chez eux, un chemin qui, sur la carte, fait une toute petite partie de l'Empire perse, mais qui, à pied, fait quand même un moment. C'était pas tout à fait évident de rentrer. Alors, pourquoi le roi Cyrus, et c'est un tournant dans l'histoire du Proche-Orient, pourquoi le roi perse accepte-t-il comme ça et décrète-t-il même une possibilité de retour à, non pas seulement aux juifs, aux judéens qui sont des juifs, qui vont s'appeler à partir de là des juifs, mais à plein d'autres populations. Les Assyriens déporter toute la population d'une région et importer une autre population pour être sûr d'être tranquille pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Les Babyloniens emmenaient en exil l'élite des populations, les rois, la cour, les artisans, les prêtres. Les Perses, qui ont un empire beaucoup plus vaste, il n'y aura que l'empire d'Alexandre pour être plus grand, ça ne durera pas longtemps, qui ont un empire beaucoup plus vaste, savent très bien qu'ils ne peuvent pas tout tenir. Donc, stratégie ou conviction profonde, moi je ne veux pas dire du mal de Cyrus, j'en sais rien, stratégie ou respect profond, ils acceptent que localement, les gens respectent leurs coutumes et leurs traditions et leurs cultes et leurs dieux. Tout ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de révolte et qu'ils payent l'impôt. Si vous ne vous révoltez pas et si vous payez l'impôt, vous pouvez bien faire ce que vous voulez et prier le Dieu que vous voulez. Et donc, on sait, à la fois par les historiens et par la Bible, par le livre d'Esdras, que le roi Cyrus, arrivé à Babylone en 539, a proclamé par un édit la possibilité pour ceux qui le voulaient de rentrer chez eux et de pratiquer chez eux leur culte. À Babylone même, il a rétabli le culte du dieu, du grand dieu de Babylone, le dieu Marduk. Alors le livre d'Esdras dit même qu'il a permis de remporter les ustensiles et la vaisselle du temple qui avaient été emmenés dans les bagages des exilés à Babylone. Alors probablement qu'il y en avait une partie qui avait été vendue en route. Enfin, ils ont pu rentrer. On a même à un moment donné considéré qu'un cylindre d'argile dans lequel on a trouvé un édit de Cyrus était le bon, mais en fait c'est un faux. Faux ou pas faux, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, les annales babyloniennes et perses en témoignent, et la Bible en témoigne. Et donc, Cyrus va permettre non seulement autoriser le retour, tous ne vont pas revenir, quelques-uns seulement, les plus fidèles, les plus, j'allais dire, les plus identitaires, ceux qui désiraient vraiment se rassembler autour du Dieu d'Israël, et Cyrus a facilité la reconstruction du temple. Qui s'est fait à l'aide d'un certain nombre de deniers, ça ne s'appelait pas des deniers, mais enfin d'argent venant de Perse. Et puis après, la reconstruction des remparts, ça a mis un peu de temps. Le temple, ça a commencé, puis c'est Darius ensuite qui l'a repris. Assez vite quand même, ils ont eu leur temple. Alors, vous regarderez, puisque vous avez sur le papier de la conférence beaucoup plus que je n'en dis. Vous regarderez comment la suite se passe. C'est pas terrible, ils reviennent avec un descendant du roi de Juda, mais celui-là disparaît. De toute façon, les Perses n'en auront pas voulu. Et c'est donc sous la domination du prince perse, ou du, je sais pas comment on l'appelait celui-là, du satrape perse de Transeufratène qui a son siège à Samarie, Jérusalem, qui est une petite bourgade, avec à sa tête le grand prêtre, les prêtres, et une vie juive qui tourne autour du temple, du culte et des rites. Voilà, ça c'est pour vous dire comment historiquement ça se passe et ce qu'accompagne le second Isaïe. Alors, dans le livre, si je m'avance maintenant, je vais rentrer de plus en plus dans le livre, si je m'avance maintenant vers ces chapitres 40-55, on peut constater qu'à la fin du chapitre 33, on avait une première, finalement, conclusion à tout le début qui était le salut de Jérusalem. Et le terme de salut est le maître mot qui revient sans arrêt. Oui, le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Il est un juste juge, il est roi, il sauve, tout est dit. Et au début du chapitre 34, s'ouvre un nouveau grand oracle qui va au fond dominer toute la suite, même si ça ne va pas venir tout de suite. Approchez, nation, pour écouter. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. La caractéristique de cet oracle, c'est qu'il est beaucoup plus vaste que le simple petit groupe, même s'il est grand, du peuple d'Israël. On s'adresse désormais à la terre entière. Et il s'agit d'un salut qui désormais va articuler le salut de Jérusalem et du peuple juif autour et celui du monde entier. Et ça, ça va être une perspective qui était déjà ouverte légèrement au début du premier livre d'Isaïe, mais qui maintenant va être la perspective la plus marquante. On s'adresse à tous. Alors, il va falloir quelques chapitres pour que ça se mette en route. Ça se met en route au chapitre 40. Consolez mon peuple. Voilà un texte admirable. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que sa souffrance est accomplie. Sion, joyeuse messagère, dit aux villes, voici ton Dieu, il vient. Le Seigneur vient. Ça se met en route à ce moment-là. Il vient et le peuple va se mettre en marche. Ces chapitres 40 à 55 qui chantent cette espérance et ce bonheur-là vont être difficiles à articuler. Vous allez les lire, ça se lit bien, c'est magnifique. On est plongé là-dedans et on va assez facilement jusqu'au bout. Quand après on vous demande comment ça se passe, est-ce que vous pouvez me dire comment c'est organisé, on est un peu perdu. Je préviens tout de suite, le plan n'est pas simple. Voilà. On est un peu perdu parce qu'il y a le retour sans arrêt de grandes vagues qui sont effectivement les vagues du retour, on revient par vagues, qui a le retour d'un certain nombre de thématique et qu'apparaît petit à petit au fil du texte la figure du serviteur. Avec cette aide-là, avec cet éclairage-là, on a pu distinguer deux grandes parties ou deux grandes thématiques qui se recoupent évidemment. De 40 à 48 d'abord et de 49 à 55 ensuite. Premier repère, on va dire. Si on veut regarder un peu ce qui s'y passe. De 40 à 48, vous avez un espèce d'encadrement. Au début, c'est le Seigneur vient avec force. Comme un berger, il rassemble son troupeau. Et il va se mettre en marche en emmenant son troupeau vers sa terre. À la fin du chapitre 48, sur un mode beaucoup plus dramatique, vous avez la même idée, mais comme une invitation, sortez de Babylone, fuyez de chez les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est les gens de Babylone. Donc un appel au départ qui, visiblement, a peut-être du mal à se mettre en route. L'ensemble des chapitres qui sont là, 40 à 48, vont tourner le regard des exilés vers la grandeur et la puissance de Dieu. Le Dieu qui vient, le Dieu sauveur et le Dieu qui est le maître de l'histoire. À l'exclusion et en rejetant toutes les idoles et tous les dieux que les hommes se fabriquent et qui sont les dieux des peuples environnants et même les dieux des vainqueurs. Attention, il y a toujours cette idée. Est-ce que le Dieu du vainqueur n'est pas un Dieu plus fort que le nôtre ? Mais il y a l'affirmation dans ces chapitres qu'il n'est pas possible, il n'est pas pensable que le Dieu des Perses ou que le Dieu des Babyloniens ou que les dieux des autres soient plus forts que le nôtre parce qu'ils ne sont rien, tout simplement. Alors voilà, ils ne sont pas forts, ils ne sont rien. Ce sont des idoles creuses. Il y a un seul Dieu, le nôtre, non seulement le Dieu sauveur, mais il est aussi le Dieu créateur. Et ce Dieu, qui se cache dans l'histoire, va se révéler en produisant ses témoins, Cyrus, qu'il appellera même mon Messie, le peuple d'Israël et enfin ce serviteur. Ça, c'est en gros, me semble-t-il, la thématique des chapitres 40-48, avec sans arrêt le Dieu unique proclamé, le néant des idoles proclamé, et on a même deux chapitres, 46 47 et un bout de 48, donc deux chapitres et demi, qui sont consacrés à condamner, dénoncer les idoles des dieux de Babylone. Parce que c'est les grands dieux que les Perses avaient finalement remis à l'honneur. Deuxième partie, deuxième thématique. Le ton change. Le ton change avec parfois des retours à des aspects triomphaux. Il y a la marche triomphale du chapitre 52. C'est Dieu qui marche à la tête de son peuple pour entrer dans sa terre. Mais quand même, le temps change. Sion, Jérusalem est beaucoup plus présente. Elle était évoquée au chapitre 40. Là, elle va être évoquée sans arrêt. Et on voit apparaître une figure maternelle, aimante de Dieu, qui se dessine avec force pour redonner vie à Jérusalem et à son peuple. Ce peuple étant appelé à reconnaître Dieu, Jérusalem prend alors les images, ce télescope, hein, mais peu importe, elle prend alors figure d'épouse, et la petite Jérusalem qui baignait dans son sang chez Ézéchiel 16, vous l'avez lu, là va être l'épouse splendide que Dieu vient finalement reconnaître et à qui il vient donner la vie. En même temps, dans ces chapitres, va apparaître, rejeté par les hommes, parce que Dieu est tout de suite aussitôt acclamé que rejeté par les hommes, persécuté mais exalté par Dieu, cette figure étrange du serviteur, dont la mission est de ramener le peuple, mais aussi de convertir l'univers tout entier. Donc une mission beaucoup plus large. Voilà, là vous avez à peu près le chemin qui vous donne un peu une ligne à travers ces chapitres. Alors, maintenant, vous avez encore un peu de courage ? Maintenant, si vous avez un peu de courage, je vais revenir sur ces deux moments en essayant de cerner les thématiques principales. La première thématique, c'est bien le Dieu caché qui agit dans l'histoire. Avec, très clairement, l'idée que l'exil, ce temps de 50, 60 ou 70 ans pour certains à Babylone, a été un incroyable tournant spirituel pour les Juifs qui sont partis dans cette déportation. Un incroyable tournant spirituel, parce que ça a été un traumatisme sans précédent, matériel, historique. La ville est tombée, les habitants, l'élite déportée, les principaux habitants, et le sentiment surtout, le sentiment de plus en plus fort, que Dieu a abandonné son peuple, ou qu'au pire, il l'a châtié, mais en tout cas qu'il s'est retiré. Il y a ce sentiment du Dieu qui se retire, dont on sait bien que au milieu du XXe siècle, il a été repris, remis à l'honneur après la Shoah, hein, incompréhensible. Martin Buber, Hans Jonas, qui vont faire une espèce de thèse de ce retrait de Dieu, qu'ils vont même appliquer au Dieu créateur. Dieu qui se retire et qui laisse au fond le monde aller à son désastre. C'est pas ça que dit le deuxième Isaïe. C'est pas un Dieu qui se retire, c'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui se cache et qui peut-être se manifeste de telle façon qu'il faut savoir regarder pour le découvrir. Il y a peut-être une leçon donnée ici. Oui, Dieu se cache, c'est sûr, mais est-ce que vous ne pourriez pas, vous, réfléchir, regarder avec d'autres yeux? Il y a toute une idée qui va se développer, on va le voir, de conversion du regard. Regarder autrement et voir qu'en fait, que ce Dieu qui se cache est aussi le Dieu qui se révèle. En tout cas, Dieu ne cesse, par ses prophètes, lui, d'appeler les êtres humains à témoin de cette révélation. Et tout ce premier chapitre, c'est vraiment l'idée que, au fond, au moment où Jérusalem qui a tant souffert, et que Dieu vient consoler mon peuple, c'est superbe l'entrée, au moment où Jérusalem va retrouver probablement vie et grandeur, elle doit elle-même se faire messagère. Il y a une bonne nouvelle. Le texte grec dira un euangelion au début du chapitre 40 qui s'adresse à Jérusalem. Annoncer à Jérusalem la bonne nouvelle. Vous savez qu'en grec, la bonne nouvelle, c'est toujours ou la victoire sur l'ennemi ou la naissance d'un enfant royal, c'est-à-dire ce qui ouvre et rend possible l'avenir. Ici, la bonne nouvelle, c'est l'ouverture du retour et de Dieu qui va accompagner son peuple. Mais en même temps, Jérusalem doit se faire elle-même la messagère de cette bonne nouvelle. Sion, messagère de la bonne nouvelle, qui doit finalement appeler son peuple à témoigner. Et sans arrêt, vous avez cette idée que cette Jérusalem qui a été aveugle, ce peuple qui a été sourd, doivent maintenant essayer d'entendre et de voir. Je vous lis un certain nombre de versets. Vous les sourds, entendez. Mais c'est vous les sourds, entendez. Pas ouvrez vos oreilles, vous entendez. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui était aveugle, sinon mon serviteur? Mon serviteur. Qui était sourd, sinon mon messager que je vais envoyer? Et on a parlé de Sion, joyeuse messagère. On ne sait pas trop qui c'est. Mais à tous ceux qui sont dans l'obscurité et le désespoir, Dieu dit, c'est vous qui êtes mes témoins. Voilà, c'est vous qui êtes mes témoins, mes serviteurs, c'est vous que j'ai choisi afin que vous puissiez comprendre et avoir foi en moi et que vous puissiez discerner que je suis bien Dieu, que je suis bien tel, discerner que je suis bien Dieu. Vous êtes mes témoins, moi je suis Dieu, personne ne délivre de ma main ce que je réalise. Qui peut le renverser? Alors, ce Dieu, il va se révéler à ceux qui sont appelés à devenir ses témoins, à y voir, à entendre, enfin on espère, c'est pas évident. Il va se révéler comme le Dieu sauveur et créateur. Comment le découvrir? Eh bien, il faut le découvrir en relisant le passé. Et donc, second Isaïe va inviter le peuple à relire le passé, ou plus exactement, il va annoncer l'avenir comme un nouveau passé qui va se renouveler, avec une dialectique étonnante, parce qu'à la fois, il se souvient, il reprend les termes de l'Exode, le retour va être un nouvel Exode, une nouvelle sortie d'exil, et c'est à ce moment-là qu'on a écrit aussi les grands textes de l'Exode. Il se souvient du passé comme le passé de Dieu créateur, et Dieu va recréer, et en même temps, il vous dit, ne vous souvenez pas des choses premières. Ne vous en souvenez pas, ne ressassez pas sans arrêt. Voilà, ne ressassez pas le passé. Je vais faire du neuf. Il bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas. Et donc, on est tout le temps dans cette idée, mais enfin, est-ce qu'il faut se souvenir ? Et il faut bien se souvenir du fait que Dieu a sauvé de l'Exode, Dieu a sauvé nos pères, de la maison de servitude, les a fait sortir de chez le Pharaon, traverser le désert et arriver dans la terre. Il faut bien se souvenir que Jérusalem, assiégée, a été libérée une fois, si on veut croire que ça recommencera. Et en même temps, il dit sans arrêt, ne ressassez plus, ne ressassez pas tout ça. Mais quand lui le décrit, il le décrit dans des termes qui reprennent le passé. Il parle du Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées. Alors, si ce n'est pas l'Exode, ça c'est quoi ? Lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et corps d'assaut, sitôt couchés, ils ne se sont plus relevés. Ils ont été étouffés comme la mèche qui s'éteint. Ne vous souvenez plus de ces premiers événements. Voici que je fais du neuf. Et en effet, ce que Dieu fait de neuf, c'est bien un nouvel exode. On va sortir de l'exil, on va rentrer. Mais ce nouvel exode dépasse infiniment le premier, car toute la nature va y participer désormais. Et c'est l'émergence, non pas seulement d'un nouvel exode, mais d'une nouvelle création. Dieu recrée, fait du nouveau. Voici que je vais mettre en plein désert un chemin. Alors on pense à l'exode. Une lande, dans la lande des sentiers, les bêtes sauvages me rendront gloire. Ça nous ramène plutôt à la création. Je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande, pour abreuver mon peuple élu, ce peuple que j'ai formé pour moi et qui dira ma louange, c'est le peuple lui-même qui est recréé. Et Dieu dit, alors là on retrouve complètement Ézéchiel, je répandrai mon esprit sur vous et sur votre descendance. Il répandra l'eau, il la fera abonder. On a vraiment une renaissance. C'est le Dieu de la vie qui affirme une nouvelle création. Et ce Dieu va, à ce Dieu va s'élever, et c'est lui au fond qui mène l'orchestre, un immense chant de louange avec le second Isaïe qui mobilise toute sa poésie à la louange du Dieu unique, créateur et sauveur, avec ce refrain martelé, c'est moi qui suis le Seigneur, moi et il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui suis le Seigneur, moi et en dehors de moi, rien. Là aussi, il reprend le livre d'Exode. Le nom de Dieu, c'est je suis. Et le livre d'Isaïe va le reprendre sans arrêt, les chapitres 43 à 45. Moi, je suis. Et en même temps, c'est vraiment le moment où on affirme l'unicité du Dieu, qui n'est pas seulement le Dieu sauveur d'Israël, qui est le Dieu créateur du monde entier. Et donc, s'il est créateur, on va voir apparaître des drôles de choses. Parce que puisqu'il est l'unique, puisqu'il tient tout, puisqu'il est le maître de l'histoire, on va le chanter de la façon suivante. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Bon, ça en veut bien. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Il aurait pu s'en passer. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Il y a une espèce d'exaltation qui fait qu'il n'y a rien d'autre. C'est lui qui fait tout cela, le bonheur et le malheur. Après, il faudra comprendre pourquoi. Mais on l'affirme et la foi du deuxième Isaïe est vraiment, je crois, le moment où le peuple juif a compris, au fond, a affirmé son Dieu comme le Dieu unique et l'unicité de Dieu. Ça, c'est vraiment important. À cela est lié alors, les thèmes se croisent. Dieu créateur, vous le lirez, vous le verrez. Je voulais quand même qu'on n'oublie pas que le verbe créer est en hébreu un verbe qui, dans l'Ancien Testament, dans les Écritures juives, n'est appliqué qu'à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu crée ? Il n'y a pas d'autre exemple ailleurs. On n'a pas de repère. Il fait surgir la vie en abondance et dans sa différenciation. En tout cas, il y a 44 emplois dans l'Ancien Testament, il y en a 16 dans les chapitres 40 à 45 d'Isaïe. Pas rien, c'est massif. Un Dieu qui sauve, et enfin, sans arrêt aussi, un Dieu juste. Vous avez 28 emplois du mot juste, justice, et on voit bien en quel sens. Un Dieu juste qui ajuste sa création à son projet de salut. Cieux de là-haut répandez comme une rosée et que les nuées fassent ruisseler la justice. Et la poésie, ce qui ruisselle, c'est l'eau qui, évidemment, crée la vie. Mais c'est aussi la justice. C'est une création qui répond à Dieu, comme la femme adultère et prostituée répond à son Dieu dans le livre d'Osée, hein, celui qui vient la rechercher dans le livre d'Osée. Que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, que la justice germe en même temps. Voilà, ce qui va pousser de la terre, c'est cette justice. Et il faut se souvenir, pour le Nouveau Testament, de ce sens de la justice chez le second Isaïe. Justice et salut vont ensemble. Ma justice et mon salut, d'ailleurs, ça se chante, c'est le Seigneur. Il y a des psaumes qui le diront aussi. La justice de Dieu, c'est son salut. C'est la caractéristique de son action créatrice. Dieu crée un monde qui doit être ajusté à son projet de salut et de bonheur. Et quand Paul parlera de la justice de Dieu, qui est redonnée dans le Christ Jésus, il a sans arrêt le deuxième Isaïe dans la tête. Et on l'oublie trop. On fait de la justice chez Paul une espèce de vertu abstraite dont on ne sait pas si elle concerne Dieu ou l'homme, mais pas du tout. C'est l'ajustement ou le réajustement grâce au Christ de l'humanité au projet créateur, qui est un projet de bénédiction et de bien. Voilà, donc ça c'est important. Pour illustrer cette première partie, je trouve que l'Isaïe de la chapelle Sixtine, l'Isaïe de Michel-Ange, est formidable parce que c'est la puissance dominatrice et tranquille du Dieu qui fait tout et qui tient tout. C'est le prophète, hein, c'est pas Dieu, mais ça fait rien. Je trouve que ça illustre bien cette partie du livre d'Isaïe. Alors, maintenant, deuxième partie, le serviteur de Dieu. À partir du chapitre 49, les choses se gâtent. Les choses se gâtent. Au chapitre 42 était déjà apparue, d'ailleurs, la figure du serviteur, une figure extrêmement positive. Un serviteur que Dieu présentait comme choisi pour imposer son jugement, sa justice aux nations païennes. Il s'adressait à lui en lui disant « Je t'ai destiné à être l'alliance de mon peuple et la lumière des nations. » Gloire de mon peuple Israël et lumière des nations, on vient de le lire, ça sera repris par le vieillard Siméon dans l'évangile de Luc, accueillant Jésus au temple. Voilà, serviteur. Le serviteur, là, en tant qu'il est la lumière pour tous les peuples. Il est celui qui inaugure les événements nouveaux que Dieu va faire naître. En même temps, ce serviteur va connaître une histoire contrastée, d'abord, semble-t-il, triomphante, et puis de plus en plus malheureuse, à travers un certain nombre de textes qu'on a considérés depuis la fin du XIXe siècle comme des textes qu'il faut séparer, les chants du serviteur, au chapitre 42, 49, 50 et 53. On continue à étudier ces textes sous ce nom-là. Il ne faut jamais les séparer du reste. Ils sont pris dans un ensemble, et c'est intéressant de les travailler dans cet ensemble, parce que c'est un ensemble qui fait alterner le serviteur qui va aller, au fond, vers de plus en plus un rejet de la part du peuple qui finira par le mettre à mort, et des oracles de triomphe sur le relèvement et la gloire de Sion-Jérusalem, relevé par son Dieu. Vous avez cette alternance dans le chapitre 49, le serviteur d'abord, Sion ensuite relevé. Dans le chapitre 50, suivi du chapitre 51 à 52 et jusqu'au verset 12 du chapitre 52, qui est une incroyable chant de louange à la marche du peuple vers, mené par Dieu vers Jérusalem, figure glorifiée, et le chapitre 53 où on voit le serviteur mis à mort, qui se tait. Au chapitre 54, à nouveau relèvement et chant de louange pour la gloire de Sion. Voilà, une alternance qu'il va falloir interroger et qui est très caractéristique de ce texte d'Isaïe. Alors, maintenant je reviens sur les chants du serviteur eux-mêmes, sur le chemin qui va suivre, sans oublier que c'est tout le temps accompagné du relèvement de Jérusalem et de la, au fond du retour du peuple avec son Dieu. D'abord, la vocation du serviteur, au chapitre 49. Un texte où le serviteur parle en jeu, raconte sa vocation et dont on retrouve à peu près l'équivalent au début du livre de Jérémie. Et que Paul, dans les Galates, s'appliquera à lui-même. Là, il sait par cœur son deuxième Isaïe ou son début de Jérémie et il l'applique à lui-même. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom. Il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, toi Israël. Toi Israël, vous entendez ça? N'oubliez pas. Car c'est par toi que je manifesterai ma splendeur. Et aux paroles du serviteur, vous lirez la suite, succède celle du Seigneur, mais en même temps, on ne sait plus à un moment donné lequel parle, les deux discours s'entremêlent et s'adressent à Jérusalem, lui annonçant son salut. C'est donc le serviteur, avec le Seigneur, orchestré par au fond la parole du Seigneur, qui annonce à Jérusalem son salut, alors que ce serviteur a été appelé déjà Israël. Ce qui est annoncé, c'est le retour du captif. Le serviteur est à la fois celui qui annonce ce retour et il est à la fois celui qui rentre. C'est lui qui opère au fond ce retour. Et ça fait une figure évidemment difficile à cerner. Il travaille avec le Seigneur à la libération d'Israël et il est Israël libéré. Et au-delà des limites d'Israël, il a la vocation universelle. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez ça dans les Actes des Apôtres, au moins à deux reprises, mis dans la bouche de Pierre et de Paul. Il y a un dédoublement qui est difficile et qui ne va pas nous faciliter la vie autour de cette figure du serviteur. Si le serviteur est un prophète, une personne, peut-être, mais alors comment peut-on s'adresser à lui en lui disant, Dieu peut-il s'adresser à lui en lui disant, toi, mon serviteur Jacob, toi, mon serviteur Israël, qui sont des noms collectifs, des noms du peuple, qui s'appelle. En même temps, c'est plus simple, c'est une personne, parce qu'on comprend que c'est cette personne qui va aider le peuple à rentrer, amorcer le retour. Mais enfin, il porte quand même le nom du peuple lui-même. Alors peut-être que c'est un petit groupe, le groupe de ceux qui rentrent, et qui vont en fait conduire ou essayer de conduire et d'éclairer tous ceux qui vont les suivre. À d'autres moments, on a l'impression que le serviteur est incarné par Sion Jérusalem. Sion Jérusalem qui dit « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », mais qui entend à ce moment-là Dieu qui lui parle avec une tendresse maternelle, puisqu'il lui dit « Une femme oublierait-elle l'enfant de son ventre ?» Une femme oublierait-elle son enfant ? Moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes paumes. Il y a des images extraordinaires de la tendresse maternelle de Dieu pour son peuple, pour Jérusalem qu'il met au monde et pour son serviteur. On ne sait pas bien qui c'est. Or, lorsque Dieu se manifeste, il est facilement rejeté. Ce Seigneur qui intervient pour Jérusalem et pour l'humanité est aussi un Seigneur que sans arrêt son peuple oublie, rejette et fatigue, comme il dit. Ils m'ont fatigué. Ou alors le prophète dit, ils ont fatigué leur Dieu. Et voici qu'à leur tour, ils vont être fatigués par le serviteur, le rejeter, le maltraiter, tandis que lui met sa confiance indéfectible dans le Seigneur. Et vous avez cet étrange ensemble des chapitres 52 et 53, où on a d'abord, jusqu'à 52-12, une invitation pour le peuple, pour Israël, à se lever dans une espèce de marche triomphale qui va le conduire à Sion, avec des choses assez étonnantes. Ce n'est pas dans la précipitation que vous sortirez, donc c'est le contraire de l'Exode, ni dans la panique que vous marcherez, car celui qui marchera devant vous, ce sera le Seigneur. Votre arrière-garde, ce sera le Dieu d'Israël. Voilà. Encadré par Dieu, comme le peuple dans le désert, il marche vers la terre promise. Et ce que je viens de vous lire, c'est le dernier verset au chapitre 52 de cette marche triomphale, 52-12. Or, aussitôt après, va commencer ce qu'on a appelé ce dernier chant du serviteur, qui est extrêmement étonnant, puisqu'il commence par une affirmation du fait que Dieu a exalté son serviteur, mais on va apprendre que ce serviteur, il a été mis à mort et tué. Et donc, quand on entre dans ce dernier chant, on a l'impression, et c'est ce qui a souvent été dit en monde chrétien, d'un cinquième évangile. Alors ça, c'est effectivement un point de vue à l'envers. C'est pas un cinquième évangile ou un évangile, c'est peut-être un évangile avant l'heure. Il y a bien la bonne nouvelle en 40. Enfin, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que les évangélistes liront et essaieront de comprendre la passion, la mort et la résurrection de Jésus à partir de ce texte. Et le texte va sous-tendre un certain nombre, presque tous, des récits de la passion. Ceci dit, ce texte n'est pas facile. Ce texte n'est pas facile, il met mal à l'aise par moments, et ça vaut la peine de le regarder d'un peu près. Je vous donne quelques indications, vous le travaillerez un peu plus tard dans votre parcours, mais ça vaut la peine de le regarder d'un peu près. Le texte est encadré par l'idée que le serviteur est exalté par Dieu au début, et à la fin, on reprendra l'idée que Dieu lui assure une descendance, le reconnaît comme juste, et au fond, le garde avec lui. Mais à peine le serviteur est-il exalté par Dieu, et on ne sait pas si c'est au futur ou si ça a déjà eu lieu. Les temps de l'hébreu sont des temps qui ne sont pas des temps, qui sont des aspects accomplis ou inaccomplis. L'exaltation du serviteur est inaccomplie. Elle est en train de se faire ou va-t-elle se faire? On ne sait pas. Le grec traduit par un futur, en train de se faire. En tout cas, il y a des rois qui regardent, ou qui regarderont et qui vont être restés bouche bée, fermer leur bouche devant ce qu'ils voient. Il y a des peuples qui vont être éblouis, aspergés, émerveillés et qui ne comprendront pas ce qui se passe. Et il est dit d'eux, ils auront vu ou ils ont vu, toujours difficile à traduire, ce qui ne leur avait pas été raconté, ils auront compris ce qu'ils n'avaient pas entendu. C'est entièrement nouveau et à ce moment-là, quelqu'un pose la question, qui sait, on ne sait pas, le prophète ou peut-être ces gens-là, qui a cru à ce que nous avons entendu dire ? Qui a cru à ce que nous avons entendu ? Et revenant sur eux-mêmes, ils vont raconter leur histoire. Entre les deux moments d'exaltation par Dieu du serviteur et de compréhension par les êtres humains que le serviteur, en fait, a été accueilli par Dieu, élevé par lui, à cette hauteur où Dieu était dans le temple de Jérusalem, c'est le même vocabulaire, il est vraiment exalté. Entre les deux, on va avoir un nous, qui va raconter ce qui lui est arrivé. Aux serviteurs et aussi à ce qui leur est arrivé à eux, ces gens qui parlent en nous, qui a cru à ce que nous avons entendu dire. Et voilà qu'ils se mettent à raconter que, au fond, ce serviteur était quelqu'un qui avait une allure humiliée, broyée, anéantie, qu'ils l'ont vu comme un homme de douleur, méprisé, ils l'ont méprisé parce qu'il était méprisable. Il n'avait aucun aspect, aucune apparence, il était blessé, malade, et selon la bonne théologie qu'on leur a enseignée, qui était la leur, et qui reste souvent bien présente, même après 2000 ans de christianisme, la théologie de la rétribution, ils estimaient, ils pensaient, nous l'estimions, frappé par Dieu et humilié. Nous considérions qu'il était malheureux, humilié, parce qu'il avait péché, et que Dieu donc l'avait puni, justement. Mais il y a un véritable retournement qui se produit tout au long de ce texte, et une espèce d'hésitation dans ce retournement. Tout d'un coup, ou peu à peu, on ne sait pas, ce « nous » se rend compte que nous estimions que lui était frappé par Dieu parce qu'il avait péché. Mais ce sont nos souffrances, nos péchés qu'il a portés. Il a été broyé à cause de nos perversités. Au fond, nous l'accusions lui et nous trouvions normal qu'il soit puni. Et tout d'un coup, nous nous rendons compte qu'il est l'innocent, qu'il va à la mort comme l'agneau à l'abattoir, sans rien dire. Mais que les véritables coupables, les véritables pécheurs, c'est nous. Et que c'est nous qui méritions. C'est nous qui méritions la punition. Et c'est lui, c'est sur elle qu'elle est tombée. Alors, il y a des tas de phrases ambiguës dans ce texte. Des tas de phrases ambiguës. Si vous sortez la phrase du contexte, ça devient catastrophique. Ça l'est peut-être. Ça devient catastrophique. Le Seigneur a fait tomber sur lui notre perversité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu avait besoin de punir quelqu'un, nous étions coupables, il l'a puni lui. C'est la substitution. La théologie de la substitution, elle est hyper présente chez les chrétiens, je parle des chrétiens au sens large, hein, il y a diverses appellations, diverses confessions, mais elle est hyper présente aujourd'hui. Il a souffert pour nous, et chez beaucoup de bons catholiques, à notre place, Dieu avait besoin de souffrance, et donc il en fallait un, il s'est tombé sur celui-là. Ce n'est pas exactement ça ce que dit ce texte. Dieu a fait tomber sur lui la perversité de nous tous, eh ben, c'est notre perversité qui l'a mis dans cet état-là. Et Dieu a laissé faire. Et Dieu a laissé faire. Il a été broyé à cause de nos perversités. Qui a broyé le serviteur? Est-ce que c'est Dieu? Comme une brebis à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Lui se tait, c'est pas lui qui se défendra. Et il faut donc que le peuple travaille. Travaille, ces gens qui regardent, travaillent leur regard pour arriver à le convertir. Il y a une théologie spontanée de la rétribution. Il est malheureux, il souffre, c'est qu'il a péché, il est puni par Dieu. Ou de l'expiation. Il y a du péché, il faut de la souffrance. Qui est dénoncé et qui est refusé petit à petit par ce regard porté par celui qui meurt en silence. Au fond, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le serviteur, broyé par la méchanceté du monde et des gens qui le croient puni par Dieu, révèle qu'il est l'innocent, qui meurt en silence à cause de ses bourreaux, et peut-être pour eux, et peut-être pour eux, parce qu'il y a un pardon de Dieu qui, quelque part, peut s'exprimer. Alors, tout n'est pas simple. Il y a des versets que j'appelle les versets périlleux. Il y a des versets qui sont les sorts de leur contexte, peuvent faire retomber dans une théologie de la rétribution ou de la substitution. Il y a un verset 10 qui semble un verset infernal. Dieu ne sait plus à le broyer. Dieu ne sait plus à rien du tout. On peut aussi traduire « broyé par la souffrance, il a plu à Dieu ». Broyé par la souffrance à cause de nous, il a plu à Dieu parce que Dieu l'a accueilli. On peut lire, vous avez le droit. On peut aussi penser que au fond, ces gens-là considéraient que Dieu s'était plu à le broyer. Mais il faut qu'ils réalisent que, au fond, non, Dieu ne s'est pas plu à le broyer, Dieu l'a accueilli. C'est eux qui sont en cause. C'est eux à changer de regard et aussi à changer de vie. Il y a aussi une phrase étonnante. Ils disent au serviteur, ou quelqu'un dit au serviteur, si tu fais de ta vie un sacrifice pour le péché. Nulle part dans les Écritures juives, un sacrifice pour le péché, bien connu, codifié dans le Lévitique, le sacrifice Hacham, ne demande une vie d'homme. C'est même dénoncé partout par les prophètes. C'est les Molochs qui demandent des sacrifices humains. C'est pas le Dieu d'Israël. Qui dit ça? Qui lui demande ça? Est-ce qu'il n'y a pas des voix aussi qui ont demandé ça, qui ont dit ça? Et il faut se rendre compte que non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu recueille, exalte et veut sauver, et montrer, manifester qu'il est du côté du serviteur. Alors, ces textes sont difficiles. Ils étaient tellement difficiles et gênants qu'en monde juif, la traduction grecque d'Isaïe, la Septante d'Isaïe, la Septante c'est d'abord la traduction grecque de la Torah en 282-285, mais le texte d'Isaïe a été traduit, disons, dans les 80 ans qui ont suivi. Vers 200, Isaïe était sûrement traduit en grec par des juifs pour des juifs, pas chrétiens encore. La Septante, elle ne supporte pas ça et elle rationalise les affaires. Elle rationalise les affaires et elle traduit en introduisant le prophète qui, au verset 10, se tourne vers ces gens qui ont commencé à convertir leur regard et leur dit « Si vous offrez un sacrifice pour le péché, alors le Seigneur aura pitié de vous. » Là, il n'y a plus de problème, tout roule bien. Si vous offrez un sacrifice pour le péché. En tout cas, elle garde ce qui était déjà très présent et elle accentue ce qui était déjà très présent dans le texte hébreu. Le serviteur est injuste. Juste, reconnu par Dieu comme un homme juste. Et c'est lui, au fond, qui rend juste les autres. C'est à cause de lui, en lui, grâce à lui, que Dieu va se réajuster les autres. C'est lui qui permet à Dieu de se réajuster la multitude. Le Nouveau Testament s'en souviendra. À nouveau, je vous ai dit, vers la théologie paulinienne de la justification, l'évangile de Matthieu, dans le récit du dernier repas de Jésus, fera dire à Jésus « Mon sang versé pour la multitude », qui est une reprise du texte grec du verset 53-12 d'Isaïe, lui qui a été livré pour la multitude. Voilà. Et les passions, les récits de la passion, vont clairement reprendre ce texte d'Isaïe. Alors, les récits de la passion avec, différemment, je dirais, le récit de Jean. Le récit de la passion selon Jean n'a pas tellement à l'arrière-plan le livre d'Isaïe, sauf dans l'exaltation de Jésus sur la croix, mais il a exactement la même thématique de la conversion du regard. Dit autrement, avec d'autres ressources bibliques, vous savez que Jésus dit comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert pour guérir ceux qui étaient mordus. À regarder le serpent, il y a une pratique magique. À regarder le serpent d'où vient le mal, on est guéri du mal. Moi, je serai élevé. Et quand vous regarderez le Fils de l'homme élevé, eh ben vous verrez votre péché. Vous avez mis, c'est moi qui conclue, mais quand vous verrez le Fils de l'homme élevé, derrière, il y a l'idée du serpent, vous voyez quoi ? Vous voyez que vous avez péché. Vous voyez où vous a mené votre violence. Et là peut s'engager un processus de conversion et de pardon. Ça, c'est dit donc avec l'image mosaïque du serpent dans le désert, dans l'évangile de Jean. Les évangiles de Marc, Matthieu, Marc surtout, et Luc encore plus, sont beaucoup plus proches du texte d'Isaïe. Chez Marc, vous avez toute une espèce de jeu qui se joue entre le voir et le croire. Descends de la croix, disent ceux qui passent. Alors nous verrons et nous croirons. Ils verront, ils croiront pas parce qu'ils voient rien du tout. Et celui qui voit ce qui s'est passé, qui voit au-delà du visible, c'est le centurion qui s'écrit. Alors chez Marc, il s'écrit vraiment cet homme était le fils de Dieu. Chez Luc, il s'écrit vraiment cet homme était un juste. Or, dans la prophétie du serviteur, il y a juste, mon serviteur qui est reconnu juste, rendra juste les foules. Luc fait dire au centurion, cet homme était injuste. Et vous travaillerez, je vous le propose pour finir, le récit de la passion selon Luc, où on a sans arrêt cette figure du serviteur et ce thème récurrent du retournement du regard. On contemple, les femmes contemplent Jésus qui monte vers le Golgotha, les foules qui contemplent ce qui s'est passé, à ce spectacle, se frappent la poitrine en s'en retournant. Et donc on a là cette affirmation que derrière la figure de Jésus, c'est la figure du serviteur qui a permis de comprendre que ce moment où Jésus est mis en croix est aussi le moment où Dieu a déjà dit au serviteur, mon serviteur sera exalté. Voilà, c'est l'image du serviteur souffrant, beaucoup plus ancienne que celle d'Isaïe. Voilà, quelques questions. Je crois que j'ai dépassé l'heure. Non, ça va. Quelques questions et puis je vous laisse faire vos petits groupes et regarder les livres à la librairie. Vous avez une petite bibliographie, d'ailleurs incomplète. Il y a plus sur la table que dans la bibliographie. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ça va ? Vous êtes épuisé. Alors, si vous êtes épuisé, vous allez d'abord prendre des vacances. Ensuite, je vous conseille de garder ce texte, parce qu'il y en a plus dedans que ce que j'ai pu vous dire, plus et moins, mais enfin quand même plus. Et puis, ben, vous vous mettrez au travail courageusement en lisant Isaïe, et vous allez sûrement faire de très belles découvertes. Voilà. Un petit mot particulier aux participants au groupe de Marguerite. Marguerite se retire provisoirement. Et son groupe est accueilli et accompagné par Aliette. Tu veux bien te lever ? Pas très grande, Aliette, mais c'est une très excellente bibliste. Voilà, qui donc va, aux mêmes heures, au même lieu, vous accompagner dans cette lecture. Voilà. Bonne soirée à tous. Et bonne Isaïe.